l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Cinquième épisode.
De ce qui arriva à notre ingénieux chevalier dans l'auberge que, pour son malheur, il prenait pour un château. Le sage Sidi Ahmed Ben Engeli poursuit ainsi le récit de ce qui arriva à notre ingénieux Hidalgo dans l'auberge qu'il prenait pour un château. L'auberge était plongée dans le plus grand silence, et il n'y avait d'autre lumière que celle d'une lampe qui brûlait accrochée au milieu du porche. À côté de Don Quichotte, on avait logé un muletier dont le lit valait beaucoup mieux que celui de notre chevalier. Or, ce muletier avait convenu avec Marie-Thorne l'Asturienne, la servante de l'auberge, qu'ils prendraient cette nuit-là du bon temps ensemble. Elle lui avait donné sa parole qu'aussitôt que ses maîtres seraient endormis, elle viendrait le retrouver. Le lit dur et étroit sur lequel reposait Don Quichotte était le premier que l'on rencontrait en entrant dans ce grenier délabré. Sancho avait fait le sien tout à côté. Venait ensuite le lit du muletier. Ce dernier, donc, après avoir donné une deuxième ration à ses bêtes, vint s'allonger et attendit la ponctuelle Marie-Thorne. Sancho, enrobé d'emplâtre, était déjà couché, mais il avait bien trop mal aux côtes pour trouver le sommeil. Quant à Don Quichotte, qui ne souffrait pas moins, il avait les yeux ouverts comme un lièvre. Ce calme merveilleux et les pensées qu'éveillaient à tout moment chez notre chevalier les innombrables aventures qu'on trouvait dans les livres responsables de ses malheurs firent naître dans son imagination l'idée la plus extravagante qui soit.
La fille du châtelain, cette si gracieuse créature, je le sens, s'est éprise de moi et va venir partager ma couche pour la nuit à l'insu de ses parents. Mon honneur est menacé, mais dût-ce la reine Guenièvre en personne venir me solliciter, je ne serais point parjure à ma dulcinée.
Il était toujours plongé dans ses extravagantes pensées quand l'heure, pour lui fatale, où devait venir l'Asturienne, arriva. Celle-ci, en chemise, pieds nus, entra à pas de loup dans le grenier où étaient logés les trois hommes pour retrouver son muletier.
La voici qui vient. Tenons-nous prêts à recevoir ma belle.
L'Asturienne avançait, prudente et silencieuse, cherchant des mains son bien-aimé, et rencontra celle de Don Quichotte, qui la saisit fortement par le poignet, l'attira vers lui sans qu'elle osât dire un mot, et la fit asseoir à ses côtés. Il lui tâta aussitôt la chemise, qui, bien que faite dans de la serpillière, parut à notre chevalier de soie fine et délicate. Les boules de verre qu'elle portait au poignet lui semblèrent jeter plus de feu que les perles d'Orient. Ses cheveux, rêches et raides comme des crins, évoquèrent pour lui ses tresses d'or fin d'Arabie, dont l'éclat obscurcit la splendeur du soleil. Quant à son haleine, qui sans aucun doute sentait les abats marinés de la veille, elle lui parut répandre la plus délicate des senteurs. En un mot, il croyait tenir dans ses bras la déesse de la beauté.
Belle et noble dame, j'aimerais pouvoir payer de retour l'insigne faveur que vous me faites en dévoilant à mes yeux votre beauté sans égale. Mais la fortune, qui jamais ne se lasse de persécuter les gens de bien, m'a jeté dans ce lit moulu et brisé, de sorte qu'il me sera impossible, malgré tout le désir que j'en ai, de satisfaire le vôtre. À cette impossibilité s'en ajoute une autre plus grande encore. C'est la fidélité que j'ai promise et jurée à l'incomparable Dulcinée du Toboso, unique dame de mes plus secrètes pensées.
Marie-Thorne suait d'angoisse de se voir si fermement tenue par Don Quichotte. Elle s'efforçait en silence de se dégager. Le muletier avait lui aussi entendu entrer sa bonne amie. Furieux à l'idée que l'Asturienne tenait sa promesse avec un autre, il s'approcha du lit de Don Quichotte et resta là, immobile, attendant de voir où celui-ci voulait en venir avec ses discours incompréhensibles. Mais constatant que la pauvre fille se débattait pour lui échapper, tandis que Don Quichotte s'efforçait de la retenir, il trouva la plaisanterie fort peu de son goût, et levant bien haut le bras, décocha un tel coup de poing dans la maigre mâchoire du galant chevalier qui lui mit toute la bouche en sang. Puis, non content de l'avoir ainsi malmené, il lui monta dessus et au petit trot lui passa toutes les côtes en revue.
Arrêtons ! C'est toi ? Arrêtons ! Bon sang, où es-tu donc ?
La servante, entendant venir son maître dont elle connaissait l'humeur irascible, alla se réfugier toute tremblante dans le lit de Sancho qui dormait paisiblement et s'y tapit de son mieux.
Où es-tu, putain ? Qu'est-ce que tu as encore été faire ?
Là-dessus, Sancho ouvrit un œil et, sentant ce poids qui menaçait de l'écraser, crut qu'il faisait un cauchemar.
Mais qu'est-ce que...
Il se mit à distribuer des coups de poing en tous sens, dont certains atteignirent Marie Thorne, laquelle, oubliant toute retenue, lui rendit l'appareil avec tant de violence qu'elle acheva de le réveiller. Le muletier, voyant à la lumière de la lampe ce qu'on faisait à sa dame, délaissa Don Quichotte pour se porter à son secours. L'aubergiste se précipita lui aussi, mais dans l'intention de punir la servante qu'il tenait pour l'unique cause de tout ce tintouin. Et comme dit la chanson, du chat au rat, du rat à la corde, de la corde au bâton. Le muletier tapait sur Sancho, Sancho sur la servante sur Sancho, l'aubergiste sur la servante, et ils y allaient si fort et si vite qu'ils pouvaient à peine respirer. Or, cette nuit-là, logeait à l'auberge un archer de la Sainte Hermandade de Tolède. Éveillé lui aussi par le bruit de cette étrange mêlée, il prit son bâton et entra en tâtonnant dans le grenier.
« Halte-là, au nom de la justice ! Halte-là, au nom de la Sainte Hermandade !»
Le premier qui lui tomba sous la main fut Don Quichotte.
« Main forte à la justice !»
qui gisait sur le dos, sans connaissance,
mais...
dans les débris de son lit.
« Fermez la porte de l'auberge, que personne ne sorte, il y a mort d'homme. »
Le combat cessa à l'instant où retentit la voix de l'archer. L'aubergiste retourna dans sa chambre, le muletier sur ses bas, la servante dans son réduit, et l'archer alla chercher de la lumière pour appréhender les coupables. Quant à Don Quichotte et à Sancho, ils étaient bien trop mal en point, les pauvres, pour pouvoir même remuer.
« Sancho, est-ce que tu dors ? Dis, est-ce que tu dors, Sancho ? Pauvre de moi, comment voulez-vous que je dorme ? On dirait que tous les diables de l'enfer s'en sont pris à mes côtes cette nuit.
Tu as de bonnes raisons de le croire. Ou je n'y entends rien. » Où ce château est enchanté, car tu dois savoir que... De... Mais jure-moi d'abord que tu garderas le secret jusqu'après ma mort.
Je le jure. Je ne dirai rien jusqu'au jour de votre mort. Mais fasse le ciel que ce soit pour bientôt.
Je te traite donc si mal, Sancho, que tu veuilles me voir mourir aussi vite.
C'est pas pour ça. Mais parce que je n'ai pas l'habitude de garder longtemps un secret, j'ai peur que ça finisse par pourrir là-dedans.
Aïe. Peu importe. Je m'en remets à tes bons sentiments et à ta parole. Sache donc que cette nuit, il m'est arrivé la plus étrange aventure que je ne pourrais jamais te raconter. En deux mots, apprends que la fille du châtelain est venue me trouver et qu'elle est parmi les plus belles et les plus avenantes demoiselles qu'il y ait sur toute la terre. Le ciel étant jaloux de ce trésor que la chance m'avait mis dans les mains, ou peut-être, et c'est le plus probable, ce château étant enchanté, comme je l'ai déjà dit, au moment où j'avais avec elle le plus tendre et le plus amoureux des entretiens, une main venue de je ne sais où et appartenant sans doute au bras d'un redoutable géant m'a asséné un tel coup dans les mâchoires que j'ai encore toute la bouche en sang. Ensuite, il m'a battu de telle sorte que je suis encore plus mal en point que je n'étais hier quand les muletiers se sont vengés sur nous des excès de Rocinante. J'en conclus que cette jeune fille, ce trésor de beauté, a dû être confié à la garde d'un mort enchanté et qu'elle n'est pas pour moi.
Ni pour moi, parce que ce n'est pas un, mais au moins 400 morts qui m'ont tapé dessus. Les épieux des muletiers, c'était du pain béni en comparaison. Et vous appelez bonne et même extraordinaire une aventure qui nous met dans cet état ?
Pour vous, passe encore, puisque vous avez eu le plaisir de tenir dans vos bras cette beauté incomparable. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai tiré d'autre que les plus beaux nions que je pense recevoir de ma vie? Ah, miséricorde! Je suis pas chevalier errant, je n'ai pas la moindre intention de le devenir, et pourtant c'est à moi que revient toujours la plus mauvaise part de nos mésaventures.
Tu as donc été battu, toi aussi?
Enfin, crénom, qu'est-ce que je viens de vous dire?
Ne te mets pas en peine, Sancho. Dès que possible, je préparerai ce précieux élixir qui nous guérira en un clin d'œil.
Oh.
Là-dessus, l'archer qui avait fini par allumer la lampe revint pour chercher celui qu'il croyait mort.
Monsieur, et si c'était le mort enchanté qui revient nous donner des coups, sous prétexte qu'il en a quelques-uns en réserve?
Ce ne peut être lui, car les enchantés ne se laissent voir de personne.
Alors mon brave, comment ça va? Je vous croyais mort.
À votre place, je n'emploierai pas ce ton. Est-ce ainsi que dans ce pays, l'on s'adresse aux chevaliers errants, imbéciles?
Hé, toi, pour qui te prends-tu? Tiens, voilà pour toi de la part de l'imbécile. Hop!
Ah, cette fois, monsieur, il n'y a pas de doute. C'est bien le mort enchanté. Il garde pour les autres son trésor et pour nous les coups de poing et les coups de lampe.
Tu as raison. Mais il ne faut faire aucun cas de tous ces enchantements et surtout ne pas nous mettre en colère ou nous sentir offensés. Comme ils appartiennent à un monde fantastique et invisible, nous aurons beau chercher, nous ne trouverons personne sur qui exercer notre vengeance. Lève-toi, Sancho, si tu peux, et va trouver le gouverneur de cette forteresse. Prie-le de me procurer un peu d'huile, de vin, de sel et de romarin, pour que je prépare l'élixir bienfaisant. Il me semble que j'en ai grandement besoin.
Sancho, bien qu'endolori jusqu'aux os, se leva et s'en fut à tâtons chercher l'aubergiste.
Monsieur, faites-nous la grâce de nous donner un peu de romarin, d'huile, de sel et de vin pour soigner mon maître, un des meilleurs chevaliers errants du monde. Hein? Il a été gravement blessé par le mort enchanté qui habite cette auberge.
Hein?
L'aubergiste, sans comprendre ce discours et prenant Sancho pour un fou, lui donna tout ce qu'il demandait. Allez.
Voilà tous les ingrédients, monsieur.
Parfait, Sancho. Et maintenant, préparons l'élixir. Voilà. Paré à point. À présent, versons la liqueur dans cette burette.
Ensuite, il récita sur la burette plus de 80 pater et autant d'Ave Maria, de salve et de credo, accompagnant chaque parole d'un signe de croix en guise de bénédiction. Cela fait, notre chevalier voulut aussitôt expérimenter par lui-même la vertu de ce précieux breuvage.
Qu'on me couvre et qu'on me laisse seul.
Ce qui fut fait. Il dormit plus de 3 heures, au bout desquelles il se réveilla frais et dispos.
Oh, je ne ressens plus aucune douleur. J'ai donc réussi à fabriquer l'élixir. Grâce à ce remède, Sancho, nous braverons sans crainte les chutes, les duels, les batailles et les pires dangers.
Monsieur, je vous supplie de me laisser finir le reste.
J'y consens, Sancho.
Voici ma dernière heure. Maudite soit cette potion.
Je crois, Sancho, que ton mal vient de ce que tu n'es pas armé chevalier. Sans doute cette liqueur ne peut-elle profiter qu'à eux seuls.
Malheur à moi et mes ancêtres. Bon, puisque vous le saviez, monsieur, vous n'auriez pas dû me laisser y goûter.
Au bout de 2 heures de tempête et de turbulence, Sancho, au lieu de se sentir soulagé comme son maître, était tellement affaibli et brisé qu'il pouvait à peine tenir debout.
Allons, Sancho. Partons à présent. De nouvelles aventures nous attendent. Si je m'attarde trop longtemps ici sans raison, je priverai le monde de mon aide. Et particulièrement ceux qui attendent de moi secours et protection. Maintenant que je possède l'élixir, je me sens invincible. En route!
Toutes les personnes, une bonne vingtaine, qui se trouvaient dans l'auberge, étaient venues le regarder. Parmi elles, la fille de l'aubergiste, que Don Quichotte ne quittait pas des yeux. De temps en temps, il poussait un grand soupir qu'il semblait tirer du fond de ses entrailles et que tout le monde attribuait à ses douleurs. Du moins, ceux qui, la veille, avaient assisté à son emplâtrage.
Monsieur le gouverneur, je ne saurais assez vous rendre grâce pour toutes les bontés dont j'ai été gratifié dans votre château et dont je vous serai redevable jusqu'à la fin de mes jours. Si je puis les reconnaître, en vous vengeant de quelques présomptueux qui vous auront outragé, sachez que j'ai pour profession et pour devoir de secourir les faibles, de redresser les torts et de punir les félonies.
Monsieur le chevalier, je n'ai pas besoin que vous m'aidiez à me laver d'aucun affront, car j'ai ma façon à moi de me venger quand on m'offense. Tout ce que je vous demande, c'est de me payer la dépense que vous avez faite cette nuit dans mon auberge. La paille et l'orge pour vos bêtes, et pour vous deux, le gîte et le souper.
Comment ? Ceci est une auberge ?
Oui, monsieur, et des plus respectables.
En ce cas, j'ai vécu jusqu'ici dans l'erreur, car je l'avais prise pour un château, et un grand. Mais puisque auberge il y a, il vous faudra pour l'heure renoncer au paiement. Je ne puis contrevenir aux lois de mon ordre. Or, je sais en toute certitude que jamais chevalier errant n'a payé ni logement ni nourriture dans une auberge. Car le droit et la loi veulent qu'on les héberge gracieusement, en récompense des multiples peines qu'ils endurent lorsqu'ils vont à la recherche d'aventures, de jour comme de nuit, hiver comme été, à pied, à cheval, exposés à la faim et à la soif, au froid et à la chaleur, aux inclémences du ciel et aux rigueurs de la terre.
Tout ça ne me regarde pas. Payez-moi ce que vous me devez et gardez pour vous ces comptes de chevalier, car moi, en matière de comptes, je ne connais que mon argent.
Vous n'êtes qu'un sot et un mauvais gargotier.
Oh !
En route, Rocinante.
La pique sur l'épaule, il éperonna Rocinante, sortit de l'auberge sans que personne ne s'interposa, et sans se préoccuper de savoir si son écuyer le suivait, il s'éloigna rapidement.
Votre maître ayant filé, ce sera donc à vous de me payer mon dû.
Monsieur, puisque mon maître n'a pas voulu payer, je ne payerai pas non plus.
Oh !
Étant écuyer de chevalier errant et ayant par conséquent les mêmes avantages.
Si tu ne payes pas, tu t'en repentiras, vilain.
Par l'ordre de chevalerie que mon maître a reçu, je ne donnerai pas un liard. Quand bien même cela me coûterait la vie. Je n'ai nullement l'intention de rompre avec cette ancienne et excellente coutume des chevaliers errants. Et je ne souhaite pas qu'à l'avenir, les écuyers puissent se plaindre qu'une si juste disposition ait été perdue par ma faute.
Malheureusement pour le pauvre Sancho, il y avait parmi les hôtes de l'auberge 4 drapiers de Ségovie, 3 merciers du quartier de la Grande Fontaine de Cordoue et 2 sévillans du quartier de la Foire, tous joyeux lurons et grands farceurs. Comme pris d'une même inspiration, ils s'approchèrent de lui et le firent descendre de son âne, pendant que l'un d'eux allait chercher la couverture du lit de l'aubergiste. Ils jetèrent Sancho dedans, et ils se mirent à le faire sauter en l'air et à s'amuser de lui, comme on fait avec les chiens pendant le carnaval.
Mais quels sont ces cris de détresse? Je sens qu'une nouvelle aventure s'offre à moi. Ciel, c'est la voix de Sancho. Il m'a l'air en fâcheuse posture. Vite, retournons à l'auberge, mon bon Rocinante. Tout est fermé. Cherchons un passage.
Quand Don Quichotte arriva devant le mur de la cour qui n'était pas très haut, il put voir comment se jouer de son écuyer. Celui-ci montait et descendait dans les airs avec tant de grâce et d'agilité que si Don Quichotte n'avait pas été aussi furieux, il n'aurait pu, je pense, s'empêcher de rire. Il voulut se mettre debout sur son cheval pour grimper sur le mur, mais il était si rompu et brisé qu'il ne réussit même pas à se lever de la selle. Alors, du haut de Rocinante, il lança à ceux qui bernaient Sancho un tel chapelet d'insultes et de malédictions qu'il est impossible de les rapporter ici. Les farceurs n'en continuaient pas moins à agiter la couverture en riant aux éclats, et Sancho a voltigé en poussant des gémissements ponctués de menaces et de prières. Rien n'y faisait et rien n'y fit, car ils ne le laissèrent que lorsqu'ils furent eux-mêmes épuisés. On lui ramena son âne, on le remit dessus, on l'enveloppa dans sa veste.
Oh, monsieur, buvez donc un peu de cette eau bien fraîche, tout juste tirée du puits.
Sancho, ne bois surtout pas d'eau, tu en mourrais. Regarde, j'ai ici l'élixir divin, il te suffira d'en boire deux gouttes pour être guéri.
Est-ce que vous auriez déjà oublié, monsieur, que moi je ne suis pas un chevalier ? Vous voulez peut-être que je vomisse le peu d'entrailles qui me reste de la nuit dernière ? Au diable, votre liqueur ! Gardez-la pour vous et laissez-moi tranquille ! Donne Mariton. Mais c'est de l'eau ! Allez, reprends dans ta cruche, apporte-moi du vin, je t'en supplie !
Mariton s'exécuta. À peine Sancho eut-il terminé de boire qu'il donna du talon à son âne et s'étant fait ouvrir la porte toute grande, il sortit de l'auberge, ravi d'avoir eu gain de cause et de ne pas avoir déboursé un sou, même aux dépens de ses épaules, qui étaient sa caution ordinaire. Il est vrai qu'on lui avait pris son bissac en gage. Mais il était si impatient de quitter les lieux qu'il ne s'en aperçut pas.
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Cinquième épisode.
Avec
Daniel Kenningsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Philippe Bertin,
Julie Pielot
et François Kergourlet.
Musique originale, Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossier.